une démarche à venir.
Bon, alors, je ferai simplement quelques remarques, bon, qui paraîtront un peu décalées par rapport à la plupart des autres contributions, disons, et même très légèrement par rapport au thème général de ce colloque. Alors, ces remarques, bon, elles sont à peu près les mêmes que celles que j'ai faites au mois de septembre, donc... à Colmar, là, donc, alors ça sera donc en trois parties. Première partie, donc, la France peut-elle dépasser l'ère primaire de l'État, bon, l'ère primaire au sens géologique de l'expression. Deuxième partie, le Yéti au pied d'argile. Et troisième partie, donc, les temps sont-ils venus de la démocratie délibérative et fédérative. Ouais, mais
on peut lui mettre un deuxième, effectivement.
Bon, alors, premier point, donc, la France peut-elle dépasser l'ère primaire de l'État? Bon, la République aime à se représenter elle-même comme l'achèvement et l'accomplissement de la démocratie. C'est là une constante, comme vous le savez, de la culture politique française. C'est Rousseau qui a très durement exprimé, sinon fondé, cette tendance synthétique, unificatrice, qu'on peut appeler unanimiste. Donc, si on résume, c'est l'attitude qui consiste à se dire tous ensemble dans la même marmite. Donc, on pourrait... ainsi résumer sa conception, donc la conception rousseauiste de la volonté générale. Bon, on peut penser évidemment à l'expression anglo-saxonne de melting pot, bon, avec cette différence que cette expression désigne plutôt le mélange ethnique propre à la démocratie américaine et à ses promoteurs. Alors pourquoi cet unanimisme, pour résumer la chose en un mot, en un terme, par souci d'efficacité, par enthousiasme grégaire, bon, pour l'élan qui, sur un pré ou dans une châtaigneraie, unit les cœurs et en un même élan et les transporte. Bon, je parle de châtaigneraie ici parce que, comme vous le savez peut-être, Rousseau a rédigé une constitution pour la Corse à l'époque de ce très grand héros de la nation corse qu'est Paoli. En réalité, nous posons qu'il faut concevoir la démocratie en direction opposée. La démocratie doit, au contraire, dépasser dialectiquement la République conçue sur le modèle français et rousseauiste. La vraie démocratie, c'est le dépassement de l'unanimisme dans le pluralisme, dans l'établissement d'un lien qui se doit... évidemment, à l'évidence, donc d'apparaître comme pertinent, pensé ad hoc, ingénieux même entre les différences qui composent toute société humaine, a fortiori ce qui compose une société civile. Bon, les politiques et les philosophes prétendent parfois que le dépassement de l'État-nation, de type républicain est déjà effectif, déjà révolu. L'État-nation, on peut le définir donc par cet État qui prétend reposer sur une identité ethnique, linguistique et culturelle, quitte à imposer de force cette unité lorsque la raison d'État, comme on appelle ça, l'exige. Bon, cependant, en France, ce dépassement est problématique et douloureux, surtout pour la classe politique dont les tenants prétendent toujours qu'elle n'existe pas, mais elle existe, la classe politique, surtout en France. Bon. Et il y a donc quatre raisons pour lesquelles cette chose-là est extrêmement difficile en France et douloureuse pour les politiciens. Donc premièrement, ce dépassement de l'état-nation correspond à une structure mentale profonde, puissante et rémanente. Qu'on relise le discours de la méthode de Descartes sur l'unité conceptuelle nécessaire et sur sa fameuse image de l'architecte. Pour Descartes, une ville paraît plus belle quand lorsqu'il règne l'unité de la conception, même si l'architecte en soi est particulièrement médiocre, que lorsque, même composée de pièces magnifiques, elle est composée de briques et de brocs. On peut d'ailleurs opposer cette curieuse conception uniformisante et de fait niveleuse à la critique de la grisaille du concept, entre guillemets, que produisent Hegel et avant lui Goethe. Bon, Hegel reprend Goethe quand il parle de la grisaille du concept. Dans cette mesure-là, on peut opposer éventuellement l'esprit synthétique français, ce qu'on appelle le génie français, et l'esprit analytique propre à la culture allemande, donc le génie allemand, si on veut. Alors, deuxième raison pour laquelle ce dépassement de l'état-nation est particulièrement difficile en France, donc, c'est qu'il existe bel et bien en France une permanence et une continuité des institutions politiques depuis Louis le XIVe au moins. Une telle observation peut sembler étrange et excessive, mais on connaît peut-être l'ouvrage de Tocqueville qui s'appelle L'Ancien Régime et la Révolution. Tocqueville expose ce point avec beaucoup d'acuité et de pertinence dans cet ouvrage. Donc, Tocqueville, entre autres, montre bien que ce trait permanent de la culture politique française, le trait dominant donc de l'organisation étatique française, est bien la tendance permanente à la centralisation autoritaire. Alors, troisième raison, donc, c'est la force de rayonnement de la culture française depuis le XVIIe siècle, et surtout la nostalgie des classes supérieures en France quant à ce rayonnement international, voire mondial, qui était effectivement le sien donc au XVIIe siècle. Bon, quatrième raison, c'est le tangage incessant des institutions européennes, cette fois, entre plusieurs modèles d'organisation politique et territoriale. Bon, il y a toujours cette question qui revient, du moins qui revenait jusqu'à ces dernières années, fédéralisme ou bien intégrationnisme. Donc la récurrence de la structure mentale française se retrouve sans phare dans tous les débats de politique institutionnelle au sein de l'Union. Bon. Mais on peut se demander, peut-être l'Europe doit-elle elle-même devenir un État-nation avant de devenir autre chose, c'est-à-dire une pluralité librement et pertinemment fédérée. On retrouve donc toujours et encore la même question, politiquement, sinon économiquement, l'État-nation peut-il être dépassé? Peut-il vraiment être dépassé? Alors, deuxième point, donc deuxième partie, le Yéti au pied d'argile. Bon, certains auteurs parlent de Léviathan, je préfère parler de Yéti. Ce dépassement se vérifie bien évidemment dans le domaine économique, où les nécessités des échanges internationaux ont produit une globalisation accélérée, comme on sait, sans doute inéluctable, et à bien des égards souhaitable, on ne le dit pas assez, enfin. Mais c'est bien loin d'être aussi sûr pour ce qui concerne les institutions politiques. Bon, l'État-nation, on l'a vu, est censé coïncider avec des caractères ethniques et linguistiques précis. Bon, ceux-ci, en réalité, sont définis ou déterminés par une poignée d'intellectuels bourgeois. À une époque, c'est-à-dire le 18e, la fin du 18e surtout, et le 19e siècle, où cette classe se trouve en pleine ascension sociale et économique, ce qui est toujours lié. Donc, à vrai dire, la nation ne préexiste pas nécessairement, et même pas réellement, à cette détermination d'instituteur ou de professeur de la middle-class en ascenseur de l'époque. Ce qui se passe alors, c'est une diffusion autoritaire, parfois dictatoriale et à tendance totalitaire, du wishful thinking. L'attitude française a été très souvent, puisque la culture française est la plus grande au monde, alors il faut l'imposer au monde entier, au besoin bien sûr par la trique, les noyades et les corvées de bois. Bon, on pense, pour ce qui concerne l'Alsace, à cette affiche placardée en 1793 dans les rues de la capitale alsacienne. Les citoyennes de Strasbourg sont invitées à quitter les modes allemandes puisque leurs cœurs sont français. Donc c'est une pétition de principe et un très beau sophisme. Donc imposition par la force, en réalité, de la culture française considérée spontanément par ses tenants comme supérieure aux autres. Bref, un tel comportement n'est pas démocratique réellement et il ne saurait établir une démocratie satisfaisante. Bon, qui manque-t-il donc ? Il y manque le respect de la société civile réelle, de ses différences internes et donc un pouvoir réel de décision pour tous les citoyens, quelle que soit leur culture d'appartenance et d'origine. Or, la République française néglige autoritairement cette donnée essentielle de la définition même d'une démocratie. Bon, troisième et dernier point, donc, les temps sont-ils venus de la démocratie délibérative et fédérative ? Alors là, il y a un auteur important, donc c'est Jürgen Habermas. Habermas nous donne des armes conceptuelles pour penser ce que serait une telle démocratie réelle, accompli réellement. On a bon, les notions d'éthique de la discussion, l'analyse précise que fait Habermas des relations entre droit et démocratie, sa critique de la raison instrumentale, bon là on est dans la philosophie, donc dans cet ouvrage qui s'appelle La théorie de l'agir communicationnel, et enfin donc le concept de patriotisme constitutionnel. Habermas, donc avec un certain nombre d'autres philosophes politiques, insiste de manière très pertinente sur le fait que la démocratie réelle se définit par ce pouvoir de décision partagée dont je parlais tout à l'heure, sur la délibération donc démocratique, synthèse d'efficacité politique à la Rousseau, et de souci permanent de respect des droits de l'homme. La démocratie concrète revêt nécessairement ainsi un aspect qu'on peut appeler horizontal, qu'on peut appeler aussi auto-organisationnel et, si l'on veut, libertaire. C'est pas une insulte de parler de libertaire, d'utiliser ce mot, sauf dans certains milieux. Bon, assurément, Habermas s'intéresse bien davantage en ses ouvrages politiques et dans ses interviews publiées à l'Union européenne et à l'ONU qu'au problème des minorités culturelles. Mais je pointerai ici un aspect particulièrement important dans sa réflexion et qui est étrangement méconnu dans la réflexion de Habermas. Donc, il s'agit de la manière dont le philosophe de Francfort conçoit la construction de l'identité. Bon, Habermas, et c'est un fait qui peut surprendre, se réfère dans certaines pages à Kierkegaard et à ce propos de la construction de l'identité. Donc Habermas reprend la description qu'expose le grand penseur danois de la sanction, c'est-à-dire du dépassement par l'individu de sa propre identité. On peut penser, pour ceux qui connaissent, à la figure du juge Wilhelm dans Ou bien, donc cette œuvre de Kierkegaard. Donc il y a dépassement afin de réaliser chez l'individu son être même dans un processus ascendant et contradictoire. Donc c'est un processus qui est dialectique et déceptif. Il s'agit d'un mouvement qui part de l'image idéale que se forme la personne d'elle-même, qui nécessairement la confronte à une réalité très différente et en général peu flatteuse. La réalité est toujours peu flatteuse par rapport à l'image idéale que se fait la personne toujours. Et l'angoisse provient de cette confrontation et de sa possibilité toujours présente pour parvenir parfois à l'accomplissement de soi, donc pas toujours. Ce mouvement ascendant, déceptif et contradictoire s'effectue grâce à une transcendance. C'est toujours face à une transcendance que se construit l'identité de la personne, en l'occurrence. Bon, ici, la transcendance, bien sûr, c'est Dieu. Dans la pensée de Kierkegaard, c'est Dieu. Bon, maintenant, donc, ce processus est à transposer, nous fait comprendre Habermas, à la construction de la démocratie réelle et accomplie. La nation s'observe elle-même, comprend, surtout après certaines catastrophes, par exemple le colonialisme, le libéralisme aveugle, ou la stagnation qui pouvait sembler indéfinie à une certaine époque, de la condition féminine, que le réel diffère tragiquement de l'idéal et des principes. Donc le processus est ici le même que celui qui se passe dans le cas de la construction de l'identité chez la personne. C'est ici aussi un jeu, J-E-U, donc dialectique et spéculaire, c'est-à-dire qu'il y a un jeu de miroir incessant entre soi et soi-même, entre soi et les autres aussi, en l'occurrence les autres nations, donc un balancement complexe et ascendant qui aligne exaltation de soi, refus, acceptation, différenciation et assimilation. Mais alors, ici, donc, on se demandera, enfin, pour ceux qui ont écouté, donc, quelle est alors la transcendance référentielle? C'est pas Dieu ici, enfin. Il est souhaitable que ce ne soit pas Dieu, en tout cas. Ce sont ici les droits de l'homme, la transcendance à laquelle il faut se référer, ce sont les droits de l'homme pour Habermas. Donc d'où la notion justement habermasienne de patriotisme constitutionnel, à savoir un sentiment qui attache le citoyen, non plus à sa nation conçue en un sens ethnico-culturel, mais à une constitution. Celle-ci doit alors consister en une réalisation juridique de déterminants culturels, compris comme, au moins virtuellement, possiblement, donc universel. Donc voilà qui nous intéresse de très près ici, puisque c'est exactement le type de patriotisme qui peut ou qui pourrait nous attacher émotivement et on pourrait presque dire intimement à notre constitution de 1911. Patriotisme constitutionnel en ce que quand même nous n'éprouvons pas une sympathie démesurée envers les hommes qui ont édicté cette constitution en 1911. Qu'on relise à ce propos un ouvrage que je recommande à chaque fois, c'est le petit livre de François Higersheim, L'Alsace des Notables, qui a été publié en 1981. Donc si même on distingue parmi ces hommes qui ont édicté la Constitution de 1911 très clairement les déterminants sociologiques, il s'agit de ce que Higersheim appelle l'Alsace des Notables, il s'agit bien de ça, c'est une sorte de panel de notaires, d'ecclésiastiques, enfin de gens comme ça, quoi. Mais donc si on n'a pas une sympathie exagérée pour ces hommes-là, nous pouvons cependant y reconnaître des éléments prometteurs et surtout une mise en œuvre juridique, enfin, et politique des droits de l'homme dans une expression, dans son expression ou dans une sérieuse ébauche d'expression alsacienne-mosellane concrète. Un tel texte, bien utilisé, donc, peut s'avérer devenir, ou plutôt redevenir, puisque c'était déjà le cas, dans une certaine mesure, en 1911, une arme politique redoutable. Bon, ce texte, donc, exige bien évidemment le même type d'assomption critique dont j'ai parlé, dont je viens de parler, et celle que Habermas voit à l'œuvre dans la pratique, justement, du patriotisme constitutionnel, appliqué à l'édification de l'État-nation républicain. Donc, d'où l'intérêt primordial de ces journées de réflexion consacrées à 1911. Ce n'est nullement une célébration sans esprit, comme l'a écrit un prof d'université dont le nom fleure bon la violette, quoi. Je ne vais pas finir sur une note critique parce que c'est une faute de goût et de style, mais c'est intéressant quand même pourquoi ce professeur-là parle de célébration sans esprit, alors qu'il y a eu des célébrations pleines d'esprit. Enfin, je ne veux pas tomber dans le subjectif, mais donc pourquoi je pense que des personnages comme M. Bischoff confond le mythe et la réalité de la République française. Alors pourquoi? Sans doute par besoin d'une religion substitutive. Le catholicisme a reculé, donc il faut une autre religion, et c'est la religion de la République. Bon. Donc c'est un mythe religieux. Il est vrai que certaines personnes sont à la fois catholiques et chevènementistes. On en connaît à Strasbourg, quoi. Alors j'ai envie de dire, mon Dieu, les pauvres. Alors deuxième raison qui peut expliquer l'attitude de M. Bischoff, c'est une nostalgie de nature familiale et sociologique d'une certaine Alsace, et que M. Bischoff et d'autres évidemment essentialisent. On pourrait dire, ils pensent vraiment que c'est ça l'Alsace, c'est-à-dire justement l'Alsace des notables, celle qui s'opposait pour la plupart à la Constitution de 1911, avec quelques exceptions. Donc il y a à l'origine de cette attitude, à mon avis, une nostalgie d'une certaine Alsace. Bon, c'est celle des notables de 1780 à 1889, j'ai envie de dire. Voilà. Donc je finis là-dessus.